journal Marc Fauvel, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, 7 ans pour réussir les Jeux. Paris sera bien ville olympique en 2024. Reste désormais à boucler un budget de 7 milliards d'euros et si possible à le respecter. La course au financement est lancée. C'est une piqûre de rappel. Chaque année en France, 9 millions de personnes vivent avec moins de 1000 euros chaque mois. Constat du Secours Populaire dans son rapport annuel, les seniors sont souvent les premières victimes. Y aurait-il du Sarkozy en lui ? Emmanuel Macron sur tous les fronts, le président multiplie les annonces et lance tous les chantiers en même temps. Karine Bécart nous dira pourquoi. À 8h20, votre invité Nicolas et cette question, tout le monde a-t-il le droit d'aller à la fac ?
Mais oui, sélection ou pas sélection en France ? On posera la question à Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de l'Innovation. Elle est invitée d'Inter à 8h20. Vos questions, 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, et si l'électrique n'était pas l'avenir de la voiture, la charge est signée du patron de PSA, Carlos Tavares. L'appel du père de Lou Bureau, ce journaliste français détenu en Turquie depuis 50 jours, vous l'entendrez. Une rencontre inattendue à Saint-Barthélemy, d'où Emmanuel Macron est reparti cette nuit. Et puis Claude Monet, collectionneur à découvrir en peinture.
France Inter. Le comité international olympique a simultanément élu la ville hôte en 2024 et la ville hôte en 2028. Paris 24, Los Angeles 28.
Voilà, c'était hier soir à Lima, au Pérou, l'annonce de Thomas Barr, le patron du CIO. Explosion de joie dans le camp français. Même si le vote, on le sait, était plié d'avance, l'ancien champion olympique Guy Dru savoure l'instant.
Ah oui, si, j'ai un petit cœur fragile encore. J'ai eu ma petite larme parce que j'ai pas pu me retenir. J'ai ressenti un soulagement, une joie profonde et puis enfin, j'y suis arrivé. Ça fait plus de 35 ans que je cours après. J'ai couru après la médaille d'or pendant une dizaine d'années. Alors que là, 35 ans, ça fait quand même long.
Est-ce que justement, ça a été des souvenirs douloureux dans votre vie, de prendre des claques comme ça ?
Oui, c'est-à-dire qu'il y en a certaines, on savait que c'était couru d'avance. Lille, on savait très bien qu'il n'y avait aucune chance et Pierre Mauroy en était conscient. 2008, c'était pas la peine d'y aller parce que c'était pour Pékin. 2012, on est passé vraiment à côté du jackpot parce que la candidature, c'est ce que j'ai toujours dit, était beaucoup trop politique. Annecy, c'était pareil, c'était ni fait ni à faire, quoi. Et là, enfin, on avait une vraie chance si on a su la concrétiser. On a été bon. On a été bon pendant 2 ans.
Pour Paris, une première course s'achève, mais une autre commence dès ce matin et elle sera encore plus longue. Bonjour Julie Pietri.
Bonjour.
C'est une course de fond, à tous les sens du terme, puisqu'il faut d'abord boucler le budget, 7 milliards à trouver, et si possible, ne pas exploser la facture.
7 milliards, c'est un budget resserré par rapport à ce que l'on a pu voir ces dernières années à Londres ou à Rio, où l'on flirtait plus avec les 11 milliards. Que dit-on du côté de la ville de Paris ? Que ça va aller, que 95% des installations nécessaires à ces jeux existent déjà. Souvent, quand les budgets dérapent, c'est à cause, en fait, des coûts d'infrastructure qui ont été sous-estimés au départ. Le Comité international olympique exige notamment que les transports collectifs soient accessibles aux personnes en fauteuil. Pour financer plusieurs pistes, déjà une sûre et certaine, le CIO, qui verse 1,5 milliard, ou la vente des billets, 1 milliard espéré.
Mais la première étape avant tout cela, Julie, c'est de trouver des sponsors.
Alors, les entreprises qui ont soutenu la candidature de Paris Accord Suez ne sont pas forcément les sponsors de demain, en tout cas ce n'est pas automatique. La chasse aux partenaires est donc ouverte dès maintenant. Sur France Inter ce matin, on a pu entendre la présidente de la Française des Jeux qui expliquait depuis Lima, nous avons très envie de continuer à tous travailler ensemble, même intérêt à la SNCF. Le PDG de Bouygues indique, lui, dans la presse, nous n'avons pas été sollicités, nous verrons. Par ailleurs, et c'est un jeu subtil à maîtriser, le Comité National Olympique a une liste de partenaires privilégiés, Toyota ou un fabricant de pneus par exemple, ce qui veut dire qu'en toute logique, Paris ne pourra pas chercher de l'aide du côté de constructeurs comme PSA, Renault ou Michelin, et au total il faudrait trouver, pour que ça marche, une trentaine de partenaires.
Merci Julie Pietri. Voilà pour les enjeux économiques. Ils sont également sportifs. En 2024, les athlètes français auront le public derrière eux, mais aussi une pression maximale sur les épaules. Reste donc 7 ans pour faire émerger cette nouvelle génération. Et là aussi, Cécilia Arbonnat, c'est un défi.
Ce n'est écrit nulle part dans la charte olympique et pourtant c'est l'obsession de toutes les nations. Être numéro 1 au palmarès des médailles. Denis Masseglia, président du Comité national olympique, fait pourtant la grimace quand on lui demande s'il pense que la France à semer les bonnes graines pour faire pousser une pépinière de champions.
Avoir les Jeux Olympiques et Paralympiques organisés en 2024, ça crée des obligations, celle d'être performant au niveau des athlètes français. Je dis que le modèle sportif et l'organisation sur laquelle on est actuellement, c'est le fruit de la statistique, nous garantit entre 10 et 12 médailles d'or. Ce n'est pas suffisant pour un pays qui organise les Jeux. Est-ce que le modèle sportif d'aujourd'hui nous permet d'imaginer en avoir plus sans le changer? La réponse est non, donc il faut forcément l'améliorer.
L'été dernier, à Rio, au Brésil, la France avait récolté 42 médailles. En 2024, la ministre des Sports, Laura Flessel, voudrait que les athlètes tricolores doublent la mise à la maison. Lima, Cécilia Arbona, France Inter.
Un mot enfin des réactions, elles sont presque à l'unisson. François Hollande, qui avait lancé le projet, salue une victoire collective. C'est celle des Français, ajoute Emmanuel Macron. Nicolas Sarkozy, Bertrand Delanoë, Martine Aubry ou Pierre Laurent, pour les communistes, se félicitent aussi. Seule note discordante, Philippe Poutou, au NPA, il dénonce un projet inutile, un gaspillage d'argent public sur fond de chauvinisme.
8h06, Marc, c'est une photographie qui revient chaque année. C'est aussi l'un des visages de la France.
Celui de la pauvreté, le Secours populaire publie ce matin son baromètre annuel sur l'état de la pauvreté en France. 9 millions de personnes concernées, cela signifie qu'elles vivent avec moins de 1000 euros par mois. Et parmi elles, de plus en plus de personnes âgées. C'est ce que constate chaque jour le Secours populaire. Géraldine Allot est allée à leur rencontre à Drancy, en Seine-Saint-Denis.
À quoi reconnaît-on qu'on glisse doucement dans la pauvreté quand la liste des produits qu'on ne peut plus acheter s'allonge?
Là, c'est votre frigidaire?
Oui. Avant, j'arrivais à faire des petits plats avec des lapins, des quatre trucs comme ça, mais maintenant, on ne peut plus se permettre, quoi.
C'est trop cher?
Oui.
Michel a 59 ans, ancienne ouvrière dans une usine d'emballage. Elle vit du RSA, 470 euros par mois. Son élocution est rendue difficile à cause de dents mal soignées.
J'ai mon fils qui m'aide un peu de temps en temps pour l'électricité. Et le reste, je ne dépense pas beaucoup.
Jamila est une ancienne auxiliaire de vie. Elle a 73 ans et une retraite de 1100 euros. À la fin du mois, une fois qu'elle a payé son loyer, il lui reste 200 euros à peine.
Qu'est-ce que vous faites alors pour faire vos courses? Où est-ce que vous allez faire vos courses?
Ben, je fais à Lidl. Là, je ne mange pas de viande, ça y est. Je mange des légumes. Je bois du café au lait avec du pain ou du beurre, ça suffit. Ça remplit l'estomac. Non, mais je ne suis pas une grande mangeuse.
Quand les fins de mois sont vraiment difficiles, Jamila, malgré son âge, cherche du travail.
Je aide les gens, quelquefois je fais les ménages. Ils me donnent 15 euros ou 20 euros, ça dépend. Ouais.
Une fois par mois, Jamila et ses copines vont à Paris visiter les monuments gratuits. Vous voyez, dit-elle, je ne suis pas à plaindre.
Autre indication de ce baromètre, un Français sur deux a déjà été pauvre ou redoute de l'être un jour. En langage militaire, cela s'appelle un carpet bombing, littéralement un tapis de bombe. Et c'est à se demander si Emmanuel Macron n'est pas en train de l'appliquer en politique, pas un jour sans une annonce sur les impôts, le logement, les retraites, des réformes menées tambour battant. Tout cela peut donner le tournis, Karine Bécard, mais c'est un choix que semble revendiquer l'Élysée.
Pour l'exécutif, c'est bien simple, tout est lié. Chaque réforme en entraîne une autre, il est donc nécessaire d'oser lancer plusieurs chantiers en même temps. Ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement le même discours que tenait Nicolas Sarkozy il y a 10 ans. Et comme le rappelle l'un de ses plus proches conseillers, 55 réformes avaient été engagées sur la seule première année. Le problème, comme l'explique très bien aujourd'hui l'un de ses anciens ministres, je le cite, c'est qu'en voulant aller très vite, tout n'était pas toujours bien fagoté et résultat, ça n'a pas marché. Voilà sur le fond. Sur la forme maintenant, ce flux continu de réformes peut donner aux Français une impression de tournis, comme le relèvent certains spécialistes en communication. Mais peu importe, pour Emmanuel Macron, 4 mois après son élection, le président veut absolument montrer qu'il est dans l'action, qu'il ira jusqu'où personne avant lui n'est allé, quitte à oublier que pour réformer, il est indispensable d'être compris pour commencer.
Analyse signée Karine Bécard. L'agenda social du mois de septembre, lui, est en train de se remplir à vitesse grand V. On savait déjà que la CGT manifesterait jeudi prochain, suivi 2 jours plus tard par la France Insoumise. Le 25, ce sont les routiers qui entrent dans le mouvement, puis les retraités le 28 septembre. S'il s'était retiré, il serait Premier ministre et moi président. La phrase politique du jour est signée Jean-Luc Mélenchon ce matin dans les colonnes de la Provence et elle s'adresse à Benoît Hamon qui avait refusé de se retirer en sa faveur. Le Parti Socialiste poursuit le leader de la France Insoumise et le seul zoo de France où les animaux se gardent entre eux. Fin de citation.
France Inter 8h09, voilà 50 jours marque le journaliste français Lou Bureau est détenu en Turquie.
Officiellement pour des photos retrouvées sur lui, photos sur lesquelles il apparaît aux côtés de combattants kurdes syriens. Le régime turc le soupçonne d'appartenir à un groupe terroriste et ce matin, son père lance un appel à la Turquie, bien sûr, mais aussi au ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui se rend sur place aujourd'hui. Loïc Bureau a pu joindre son fils dimanche dernier. Voici ce qu'il lui a dit.
L'expression qu'il m'a dite dimanche dernier, c'est qu'il a l'impression d'être un zombie. Toutes les journées sont identiques, c'est-à-dire qu'il ne peut strictement rien faire dans sa cellule. à part attendre les 5 minutes de promenade par jour dans une cour fermée. Il est complètement isolé et évidemment, il vit très difficilement cette détention, d'autant plus qu'il est détenu au nom d'une cause qui n'est pas la sienne. Je dirais, s'il a une cause, c'est le journalisme. Personne ne doute, en Turquie même, de l'innocence de mon fils. Il y a eu un doute pour eux avec cette photo qu'il a prise en fin de reportage avec des militaires de l'armée syrienne kurde. Mais maintenant, après avoir cherché pendant 50 jours dans les affaires de mon fils, ils savent exactement que mon fils est innocent. En dehors d'une volonté de le maintenir en prison, il n'y a rien aujourd'hui qui pourrait expliquer le fait qu'il ne soit pas libéré.
Témoignage recueilli par Sébastien Sabiron. 3 jours après son passage, Irma continue de tuer en Floride. Découverte macabre dans une maison de retraite de Miami. 8 personnes âgées sont mortes, sans doute de déshydratation. 100 d'autres ont dû être hospitalisées d'urgence. Faute d'électricité, l'air conditionné ne fonctionnait plus. Alors que les températures dépassent les 30 degrés, le dernier bilan fait état de 80 morts, dont la moitié aux États-Unis. Et puis l'un de nos envoyés spéciaux à Saint-Barth, connu aussi pour ses millionnaires et ses people, a fait une rencontre sur place. Il est tombé nez à nez avec l'ancienne patronne du MEDEF, Laurence Parisot. Elle a une maison sur place et avec ses moyens, elle a choisi elle aussi de donner un coup de main. Thibault Lefebvre.
Sur le tarmac de l'aéroport, en pantalon léger et en t-shirt large, Laurence Parisot organise depuis une semaine un pont aérien privé.
Je suis très proche de différents aviateurs ou compagnies qui volent vers Saint-Barthélemy depuis les États-Unis et ce depuis longtemps. Donc avec eux, nous avons apporté des groupes électrogènes, un peu de vivres, des tronçonneuses aussi. C'est assez étonnant de charger un avion en tronçonneuse, mais c'est tout à fait utile.
L'ancienne patronne du MEDEF connaît beaucoup d'habitants de l'île. Depuis une 40aine d'années, elle fréquente Saint-Barthélemy.
Ma famille, mon père en particulier, dans les années 70, a apporté beaucoup et a contribué au développement économique de l'île. Donc j'ai un attachement extraordinairement puissant et intime à cet endroit. C'est une façon de montrer que Saint-Barth, c'est beaucoup d'autre chose que la caricature et ce que laissent entendre certains magazines People.
Votre maison, ça va ?
Pas trop, mais c'est pas grave. C'est une petite case Saint-Barth. Et donc il y a une partie qui a tenu et l'autre non, mais c'est pas grave.
Laurence Parisot n'oublie pas Saint-Martin, elle demande à la métropole un appui massif pour l'île voisine. À Saint-Barthélemy, Pierre Quintard, Thibault Lefebvre, France Inter.
Et sachez que France Inter s'associe à France Télévisions pour un grand concert de soutien aux sinistrés. Ce sera mardi prochain en direct sur France 2 et sur notre antenne.
Et voilà une charge qui ne passe pas inaperçue.
Signée du patron de PSA, Carlos Tavares, alors que s'ouvre à Francfort en Allemagne le Salon Mondial de l'Automobile. La mode, vous le savez, est aux hybrides, aux voitures électriques. Le Dieselgate est passé par là. Mais hier, Carlos Tavares s'est livré à une attaque en règle contre la voiture électrique, pas si verte que cela, selon lui Aurélien Tirard.
La charge est d'autant plus violente que PSA prévoit dans sa feuille de route 50% de véhicules électriques en 2020 et 80% en 2023. Carlos Tavares dit ne pas avoir d'état d'âme en tant que capitaine d'industrie, mais se dit inquiet en tant que citoyen et de lancer « Si on nous donne instruction de faire des véhicules électriques, il faut aussi que les administrations et les autorités assument la responsabilité scientifique. Parce que je ne voudrais pas que dans 30 ans, on ait découvert les uns ou les autres quelque chose qui n'est pas aussi beau que ça en ait l'air. » Et de s'interroger sur le coût écologique du recyclage des batteries et sur leur empreinte carbone. Comment trouver, dit-il, suffisamment de matières rares pour faire les cellules et les chimies des batteries? Des questions, mais pas de réponses. Carlos Tavares, qui dénonce un emballement mondial contre les moteurs thermiques, estime que son avis est absolument inaudible. Toute cette agitation, conclut le patron de PSA, tout ce chaos va se retourner contre nous parce que nous aurons pris de mauvaises décisions dans des contextes émotionnels.
Monaco sur la pointe des pieds pour son entrée en Ligue des Champions. Les Monégasques ont fait match nul avec Leipzig, un partout hier soir, place à l'Europa League aujourd'hui pour Lyon, pour Marseille et pour Nice.
8h14, une exposition Monet pour terminer ce journal.
Vous connaissez bien sûr le peintre impressionniste, mais Claude Monet était aussi un grand collectionneur pendant toute sa vie. Il a réuni des chefs-d'œuvre de ses maîtres ou de ses contemporains. Avec le temps, la collection s'était éparpillée, mais le musée Marmottan à Paris vient de la réunir avec une centaine d'œuvres. Jacqueline
Petros.
Il a fallu 4 ans de recherche et d'études de documents et de lettres, comme pour une enquête policière, pour reconstituer cet ensemble remarquable. Manet, Caillebotte, Morisot, Cézanne, Boudin, Jonquing, les chefs-d'œuvre se succèdent et disent l'importance de cette collection dans le parcours artistique de l'époque. Marianne Mathieu, l'un des commissaires de l'exposition.
On s'aperçoit que ce qui intéresse Monet, c'est de réunir des œuvres qui ne ressemblent pas aux siennes. Monet va aimer le dialogue, il va sélectionner des artistes et des œuvres qui propose des solutions alternatives à sa propre création.
Parmi les surprises, un tableau pointilliste de Pissarro tout à fait exceptionnel, mais aussi des œuvres incontournables de Cézanne et Renoir.
Le Nègre Scipion qui vient de Sao Paulo, qui est une œuvre majeure de Paul Cézanne qui a été peinte en 1867. La baigneuse du Metropolitan Museum qui est une œuvre majeure acquise par Monet en 1900. Et on sait maintenant qu'il l'a payé 6500 francs.
Et puis il y a Rodin.
Une découverte totale absolue dans une collection privée française d'un plâtre offert par le sculpteur et qui est dédicacé sur le socle au grand maître Claude Monet, son ami Rodin.
Sculpture, peinture, dessin, tous magnifiques, nous font entrer avec émerveillement dans l'intimité du maître Claude Monet.
Monet collectionneur au musée Marmottan à Paris jusqu'au 14 janvier prochain. Enfin, la Chine est en deuil ce matin et nous aussi, Basie, le plus vieux panda du monde en captivité, vient de mourir. C'était une femelle de 37 ans et était une star en Chine où son anniversaire était fêté chaque année en grande pompe et à la télé, s'il vous plaît. Je sens bien que ça vous rend tout triste,
mais
Nicolas.
Oui, paix à son âme, paix à Basie. Merci Marc Fauvel, la météo.